peut-être pour prendre une voix plus neutre.
Pour nous rapprocher, oui. Pour être très très très.
Il faut que je prenne une voix plus neutre. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas neutre comme histoire. Bon, on recommence.
On y va, Arthur ?
Oui.
Histoire de jus. Bonjour et bienvenue dans Histoire 2, l'émission de documentaire et création sonore de Studio Zef. Histoire de dire, histoire de blois, histoire de voir, Histoire 2 vous invite à des escapades sonores en bas de chez nous, peut-être chez vous, vers la rencontre. En ce printemps 2024, Histoire 2 vous propose une série de plusieurs épisodes consacrés aux archives départementales du Loir-et-Cher. Ces archives écrites, manuscrites, nous ne les verrons pas puisque nous faisons de la radio. Tout passera donc par la voix et le regard, celui de l'archiviste qui les sort de leur silence et celui de l'historien qui vient tirer le fil de la grande histoire. Pour ce premier épisode, rencontre avec la directrice des archives, Annelise Le Bourgeois, qui a choisi de nous faire découvrir les cahiers de doléances de 1789, rédigés en Loir-et-Cher dans la perspective de la réunion des États généraux. Et pour débuter cette série, c'est Benoît Bouvet, professeur d'histoire-géographie, qui tirera le fil de l'histoire. Car comme le dit Annelise, les archives n'ont de sens que si on les partage.
J'ai choisi de vous montrer les cahiers de doléances de 1789.
Annelise Le Bourgeois, directrice des archives départementales de Loir-et-Cher.
Ces cahiers sont conservés aux archives départementales depuis leur versement par le tribunal de Blois. Nous conservons environ 170 à 180 cahiers de doléances et procès-verbaux des assemblées des paroisses de Loir-et-Cher dans des formats, comme vous voyez, qui sont très, très variés. Il y a des petits formats qui sont l'équivalent, on va dire, d'un format de petits cahiers d'aujourd'hui et des pages plus grandes qui ont parfois souffert dans le temps des mauvaises conditions de conservation. On peut voir encore la trace du temps puisque les bords sont dentelés et certains sont un petit peu tachés, mais ils sont encore bien lisibles et puis la restauration permet de les consulter. J'ai sorti par exemple le cahier de doléances de la paroisse de Villeny. La paroisse de Villeny, donc en Sologne, est intéressant puisque les habitants vont faire part de doléances très très concrètes et faire part de leur appréciation par rapport à leur terre rurale et qu'ils estiment très très hostile, avec des récoltes très peu fructueuses qui donc leur permettent à peine de mettre de côté les semences pour la récolte de l'année suivante et de payer les impôts.
Alors, en 1789, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation de la France est bloquée.
Benoît Bouvet, professeur d'histoire-géographie.
Le roi Louis XVI a fait venir successivement différents contrôleurs généraux des finances qui se sont à chaque fois un peu cassés les dents, dans le sens la France s'est beaucoup endettée lors de la guerre d'indépendance américaine qui s'est terminée en 1781. Et donc, elle cherche des expédients pour à chaque fois sauver ses finances, sachant que bien à chaque fois, les différents contrôleurs généraux des finances n'y parviennent pas. Donc, on a différentes réformes qui sont tentées, mais à chaque fois, elles se cassent, notamment elles se cassent sur cette opposition organisée qui est celle des parlements. En effet, le plus gros des parlements à l'époque, c'est le Parlement de Paris. Et le Parlement de Paris, ce qu'il fait, c'est qu'il s'appuie sur le fait qu'il représente la nation française, quand bien même lui-même n'est constitué que de gens privilégiés. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque tentative de réforme, ce Parlement de Paris, qui doit entériner les lois nouvellement faites par le contrôleur général des finances et ses ministres, eh bien, à chaque fois, il est en opposition systématique. Et comme il est en opposition systématique, on est dans une situation bloquée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le roi doit passer par, je vais passer un petit peu tous les détails, mais un lit de justice, c'est-à-dire un passage en force, aujourd'hui on dirait un peu le 49-3, pour pouvoir que ça fonctionne. Or, le problème, c'est que le roi Louis XVI, c'est un roi qui est irrésolu. C'est pas un mauvais roi, mais c'est un roi qui a du mal à taper du poing sur la table. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il se laisse gagner à des idées de justement partager une partie de son pouvoir. Alors, même si on est en monarchie absolue de droit divin, ça n'empêche pas qu'il n'a pas le pouvoir de faire tout et n'importe quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'en plus de cela, eh bien, il y a une montée du ressentiment, une montée de l'opposition, de façon structurelle, comme je l'avais dit tout à l'heure avec les parlementaires, qui appellent à chaque fois à leur rescousse le peuple, lorsqu'à chaque fois il y a des mesures qui sont prises contre lui.
Extrait du film La Révolution française de Robert Enrico.
Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes.
Alors, comme dans beaucoup de cahiers de doléances, les habitants commencent par assurer le roi de leur fidélité. Ça, c'est quelque chose de très fréquent. Et ensuite, les habitants donc, de la paroisse de Villeny expriment leurs revendications très, très locales. Nous avons tous, en général, et chacun de nous en particulier, l'honneur d'observer que cette paroisse de Villeny est située dans le plus mauvais canton et le moins fertile de la Sologne, pays connu comme le plus mauvais du royaume, parti étant en bruyère inculte. Que les récoltes en seigle, orge, avoine et blé noir, sarrasin, y sont si infructueuses que très souvent on a peine à recueillir les semences et frais de récolte. Que cette paroisse est si aquatique que les hommes n'y sont jamais robustes ni de bonne santé, sujets à des maladies annuelles et qui souvent deviennent épidémiques. Voilà, on voit dans ces quelques exemples que les constatations sont vraiment liées aux conditions de vie locales des habitants.
Quel est votre avis, monsieur Necker ?
Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences.
Non, monsieur Necker. Votre seconde option ?
Convoquer les états généraux, sire. C'est le seul corps d'état qui a le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de votre majesté.
Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, monsieur Necker.
Les cahiers de doléances ont été rédigés en 1789 dans la perspective de la réunion des États généraux du royaume. C'est le roi Louis XVI qui reprend une tradition qui existait depuis le XIVe, le XVe siècle, de réunir les États généraux du royaume, c'est-à-dire des représentants des trois ordres qui constituaient la société d'Ancien Régime, la noblesse, le clergé et le tiers-État, pour demander leur aide, notamment pour trouver des solutions financières aux problèmes économiques du pays. Et c'est le cas en ce tout début d'année 1789 où le royaume de France est dans une grave crise économique et financière.
Ce qui va en plus accentuer cette difficulté, c'est que on est toujours dans une époque d'Ancien Régime, donc une époque surtout basée au niveau économique sur l'agriculture. Et à partir de 1787, 88, 89, il va y avoir une mauvaise récolte. Et donc, dans ces moments-là, la récolte n'étant pas bonne, eh bien, les gens sont à cran. Ça veut dire que autant en juillet, quand il y a la récolte, on a du grain. Jusqu'en mars, avril, ça va, on a du grain. Mais à partir de mai, juin et juillet, on appelle ça la période de soudure, là, il n'y a plus de grain. Donc, le roi, souvent, achète à l'étranger du blé pour pouvoir nourrir la population française. Mais ça ne suffit pas toujours. Et puis à chaque fois qu'il y a des convois qui passent, très souvent ils sont attaqués pour que le blé reste sur place. En conséquence, on est dans une situation assez compliquée à gérer. Et dans la mesure où le peuple aime le roi, mais que le roi aime son peuple aussi, mais qu'il a du mal à justement faire passer ses idées, des fois en utilisant la force, au-dessus du Parlement, eh bien, à un moment donné, il va se laisser gagner à l'idée, donc dans un premier temps, de faire ses états généraux, Et ensuite, bah, après, la logique révolutionnaire va être enclenchée, ce qui n'était pas du tout prévu à la base.
Nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui, 6 mars, dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer.
Je me présenterai.
Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Les habitants du royaume vont se réunir alors de différentes façons selon les ordres. Le clergé et la noblesse vont se réunir en une fois au chef-lieu donc du bailliage ou de la sénéchaussée. Le bailliage et la sénéchaussée sont des circonscriptions judiciaires de l'Ancien Régime. Donc, grosso modo, les bailliages au nord et les sénéchaussées plutôt dans le sud. Donc, dans notre département, il y avait plusieurs bailliages. Le bailliage principal étant celui de Blois, avec des bailliages secondaires à Vendôme, Romorantin, Mondoubleau. Donc, les habitants du tiers-état vont se réunir d'abord chacun dans leur paroisse, élire des députés, des représentants qui vont se retrouver à l'Assemblée au niveau du bailliage. Et les cahiers de doléances qui sont rédigés au niveau des paroisses vont servir ensuite et être synthétisés par l'Assemblée du bailliage.
Voilà. C'est très démocratique, en fait, pour l'époque.
Oui, c'est intéressant de voir cette consultation qui se fait de façon progressive. Et les cahiers de doléances donc des trois ordres sont ensuite confiés aux députés pour être transmis aux États généraux qui se réunissent à Versailles.
Eh ben, en fait, c'est pas du tout démocratique dans le sens les assemblées délibératives de l'Ancien Régime, on appelait ça les communautés d'habitants. On peut penser que c'est de la démocratie directe, de la démocratie populaire, mais ça fonctionne pas tant que ça. Ceux qui participent à ces assemblées, ce sont, je vais employer un terme anachronique, mais ce sont les coqs de village, c'est-à-dire ceux qui, dans un village, comptent. Vous êtes fermier, vous êtes laboureur, vous comptez. Vous êtes artisan, vous comptez. Vous êtes vigneron, vous comptez. Vous êtes journalier, vous comptez pas. Est-ce qu'ils étaient nombreux, ces journaliers, ces brassiers, ces manœuvres? Ils étaient assez nombreux, en effet, dans chaque village, dans chaque paroisse. Et donc, des fois, on va leur demander de participer quand même à l'assemblée délibérative, et des fois, moins. Alors, on le voit après par rapport aux signatures, et ensuite, on le voit en fonction, justement, des fois, il y a des listes de noms qui sont données par le notaire. Très souvent, c'était le notaire qui faisait l'acte. Ça pouvait être quelqu'un dans les métiers du droit aussi. Mais au moment donc des cahiers de doléances, peut-être que certains ont pu participer, mais ce n'était pas leur voix qui était la plus exprimée. Même si certains, sentant qu'il y avait un appel d'air, ont pu exprimer des revendications qui, en temps normal, n'auraient pas été écoutées. Le mot équité sous l'Ancien Régime, c'est un non-sens. Ça n'existe pas. C'est comme le mot tolérance. C'est des réalités, c'est des mots qui portent sur une réalité qu'on a du mal à concevoir aujourd'hui.
J'avais sorti aussi, je crois, le cahier de doléances de la paroisse de Fin. Donc c'est pour qui illustre la diversité des formes de ces cahiers, avec ici un plus grand format. Et des doléances qui ont été numérotées avec des revendications très courtes et très claires. Voilà, donc les habitants de la paroisse de Fin assemblés pour la rédaction du cahier de leurs plaintes et doléances en vertu du règlement du roi donné à Versailles le 24 janvier dernier et de l'ordonnance de Monsieur le lieutenant général du bailliage de Blois, supplie humblement Sa Majesté de diminuer le taux de leurs impositions qui ont réduit les trois quarts des habitants à une extrême pauvreté, de diminuer les frais de perception de l'impôt, les contraintes qui sont ruineuses pour les pauvres, d'abolir les gabelles et de rendre le sel et le tabac marchands. Voilà, on voit qu'on retrouve cette doléance dans plusieurs cahiers.
dans les cahiers de doléances, effectivement, les études des historiens ont pu montrer que il fallait à chaque fois, bien sûr, un greffier ou une personne qui tienne la plume, finalement, à la place des habitants, et que forcément la présence de quelques personnes plus lettrées que d'autres a pu influencer la façon dont les doléances étaient rédigées. Il y a également des modèles de cahiers de doléances qui ont circulé. Et donc là, les historiens ont pu étudier et montrer comment une partie des doléances se retrouve libellée strictement de la même façon dans plusieurs cahiers. Mais quand même, quand on le voit hein, dans les cahiers que nous conservons, il y a des mentions qui sont très locales, très particulières. Donc voilà, c'est vraiment le travail d'étude qui permet de démêler ce qui va relever du modèle, ce qui va relever d'une formation de la part de celui qui rédige, et puis l'expression vraiment profonde des doléances des paroissiens.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'Ancien Régime, on est dans la société, donc une société d'Ancien Régime, c'est une société inégale, inégalitaire, c'est la société du privilège. Privilège, ça vient littéralement, ça veut dire littéralement la loi privée. Ça veut dire tout simplement les draps, on les ramène vers soi et tant pis pour les autres. On pense souvent dans l'Ancien Régime justement à la noblesse et au clergé qui sont donc exonérés d'impôts, même si ce n'est pas complètement que ça. Et il est vrai que de toute façon, l'essentiel du revenu du roi vient de la taille et d'un certain nombre d'emprunts qu'il fait. Et cette taille repose essentiellement sur le tiers-état.
De fixer la prestation en argent de la corvée au taux moindre que le quart de la taille, d'ordonner que la somme provenant de la prestation en argent pour la corvée soit employée à rendre praticables les chemins de leur paroisse.
Alors aujourd'hui, quand on paye les impôts, c'est en fonction de notre revenu. À l'époque, le roi fixe la somme dont il a besoin, c'est fixé en haut, et ensuite c'est réparti en fonction des généralités, et ensuite réparti en fonction des élections. Annelise, tout à l'heure, a parlé des bailliages, c'est donc une structure judiciaire. Se chevaucher une structure donc, financière, à savoir donc, l'élection, qui n'a pas forcément toujours les mêmes contours que les bailliages, donc faites simple quand on peut faire compliqué. Et donc, ça veut dire qu'en fonction donc, de la généralité et des élections, on disait, voilà, vous devez payer, dans l'élection de Blois, vous devez payer telle somme. Et ce dont on se rend compte, c'est que, par exemple, l'élection de Romorantin, qui est en termes économiques, où il y a moins de... Comment dire, économiquement, cette région, elle est moins forte, elle devait payer plus que l'élection de Blois, qui, elle, avait davantage les moyens. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'élection de Blois, on avait des personnes plus haut placées, qui faisaient en sorte de privilégier les habitants de Blois au détriment des habitants, alors je ne vais pas dire de Romorantin, mais à chaque fois, ils faisaient en sorte que ça soit plus facile pour les habitants de l'élection de Blois. Et donc, au sein donc, de l'élection de Blois, les paroisses rurales étaient davantage taxées. Et au sein des structures donc, des paroisses, eh bien, il y avait certains qui... Alors, ceux qui percevaient l'impôt, la taille, c'était des paroissiens eux-mêmes. Et donc, si toutefois la somme n'était pas perçue à la fin, c'était sur leur propre denier qu'ils devaient assurer la somme qu'on leur avait donnée au départ. En conséquence, à chaque fois, tous ceux qui doivent percevoir, ce sont des gens qui ont une certaine assise financière. Chaque année, il y a un roulement qui est fait. Et comme on ne peut pas non plus compter tout le temps sur 50 000 personnes, eh bien, à chaque fois, on sait très bien que ceux qui doivent percevoir, on ne les taille pas aussi fort qu'on pourrait parce que justement, à chaque fois, sinon après, ils ne pourront plus à leur tour être les percepteurs.
De soumettre les biens du clergé et de la noblesse à toutes les charges du royaume comme ceux du tiers-état. En conservant à ces deux premiers ordres les droits honorifiques dont ils sont en possession. Donc vous voyez qu'on a là aussi toujours cette revendication que le paiement de l'impôt soit partagé, mais en particulier dans cette paroisse donc de Fins, on reconnaît au clergé et à la noblesse eh bien, certains droits et privilèges qu'ils peuvent conserver.
Et donc en fonction des capacités financières cette fois-ci, le percepteur dans chaque paroisse disait aux uns et aux autres à combien il devait être taxé. Là je parle que pour la taille. Après les autres impôts, en effet, il est fait mention de la capitation. Alors la capitation, c'est un autre impôt direct qui a été ajouté. Capitation, ça vient du mot chef, capite, et donc ça veut dire que c'était par personne. Au début, c'était un impôt qui devait porter aussi sur la noblesse et le clergé, mais la noblesse et le clergé ont fait ce qu'il fallait pour transformer cet impôt en un impôt beaucoup plus réduit que toucher le roi. Bref, il y a eu ensuite, au cours du XVIIIe siècle, le 10e, puis le 20e, puis le 2e 20e. Donc à chaque fois, ce sont des impôts qui sont ajoutés, qui normalement à la base portent sur l'ensemble de la société, mais au final, ça porte tout le temps sur le tiers état.
Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître.
Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies?
C'est ça,
oui.
Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre.
C'est vrai, c'est vrai.
Si vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire.
De façon générale, dans les cahiers de doléances, les revendications vont porter sur les impôts. La charge des impôts, la diversité des impôts qui pèsent sur le tiers-état revient dans tous les cahiers de doléances, avec la proposition très souvent de les remplacer par un seul impôt qui serait partagé, y compris par la noblesse et le clergé.
Ensuite, la gabelle, c'est un impôt sur le sel. Il fallait acheter obligatoirement une quantité de sel. De toute façon, les paysans avaient tout intérêt à ça, à acheter du sel, parce qu'ils en ont besoin. De toute façon, on en a besoin pour notre organisme. Et aussi pour l'élevage, c'est-à-dire que des fois, les animaux, il n'est pas rare des fois de voir dans les Pyrénées, aujourd'hui encore, là où il y a de l'élevage de moutons, l'agriculteur qui met du sel sur les pierres, et puis les moutons viennent lécher le sel parce qu'ils en ont besoin pour leur organisme. Donc cette quantité de sel était nécessaire. Le problème, c'est qu'on est encore dans une société inégalitaire. Certaines régions de France produisaient leur propre sel, donc étaient exemptées de l'impôt sur le sel. Et puis nous, on était dans une région de grande gabelle. Ça veut dire qu'on payait plein pot par rapport à cette quantité de sel à payer. Sans compter que ce qu'il faut savoir, c'est que le roi, quand il a des impôts à faire payer, c'est pas lui qui le collecte lui-même. À chaque fois, il va bailler à ferme le droit de collecter l'impôt pour lui. Et donc, si vous êtes un grand fermier, si vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez ce droit, et ensuite, vous, lorsque vous le collectez, eh bien, vous vous en prenez une partie pour vous. Et donc, les collecteurs qu'on appelait les gabelous étaient très très mal vus par les paysans de l'époque, et il y en a certains qui l'ont payé de leur vie au moment de la collecte, lorsque justement la récolte était déjà difficile, que les paysans étaient en grande difficulté pour vivre ou le plus souvent survivre, et qu'ensuite les collecteurs d'impôts, quels qu'ils soient, venaient réclamer ce qui était selon eux leur dû.
Les cahiers de doléances rédigés par la noblesse, en général, ne sont pas hostiles à payer une forme d'impôt. Et si on va trouver dans les cahiers de doléances du tiers-état, évidemment, des revendications autour de l'abolition des privilèges, on va trouver dans les cahiers de doléances de la noblesse, en revanche, l'expression du désir de conserver un certain nombre de ces privilèges.
Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés ?
Le clergé, lui, va bien sûr affirmer son attachement à la religion catholique, à ce qu'elle reste la religion du royaume. Et le clergé va porter aussi un certain nombre de souhaits en matière de dotation pour avoir une vie un peu plus confortable dans certaines paroisses plus défavorisées. Et on va trouver également des revendications autour de la liberté de la presse, par exemple, qui est réclamée par les autres ordres, mais qui est combattue par les cahiers du clergé.
Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier?
Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastique.
Ecclésiastique?
Parfaitement.
Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins?
Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous.
La liberté aussi.
Après, la noblesse avait ce qu'on appelait l'impôt du sang, c'est-à-dire que dans la mesure où elle se battait dans les armées du roi, elle estimait que l'impôt du sang valait l'impôt tout court. Le clergé, alors ne payait pas, même s'il faisait ce qu'on appelle un don gratuit, c'est-à-dire que le roi, quand il avait besoin, il demandait au clergé de lui accorder un don gratuit. Très souvent, le clergé le faisait, même en renaclant un peu. Et donc, le clergé ne payait pas l'impôt parce que le clergé prie. pour l'âme des paroissiens et du roi. Et donc, à ce titre-là, c'est un peu, d'une certaine manière, sa monnaie d'échange.
De laisser subsister la justice dans leur paroisse. C'est vrai qu'on retrouve dans de nombreux cahiers de doléances aussi des mentions relatives à la justice, à l'exercice de la justice. Souvent, les paroissiens font remonter que la justice est trop lente et trop coûteuse. Ce sont des remarques, des doléances qui finalement font écho aussi à une actualité que l'on connaît toujours. Et ça, c'est vrai qu'on la retrouve souvent, demander une justice plus proche, donc comme on peut l'avoir ici sur fin, voilà, un exercice de la justice qui soit proche des habitants, donc plus rapide, plus simple et moins coûteux. Prendre des mesures pour le soulagement des pauvres d'une extrême vieillesse ou réduit à un état d'infirmité habituel. D'ordonner la suppression des charges d'huissiers priseurs comme un fardeau trop pesant pour le peuple. D'avoir égard à ce que leur paroisse est possédée les trois quarts par des propriétaires hors d'icelle et non taillables.
Ça veut dire
que, en fait, les terres qui forment la paroisse de Fin appartiennent à des propriétaires qui ne sont pas habitants de cette paroisse et qui ne payent pas la taille. Donc là encore, un nouvel impôt.
Comme nos maisons secondaires.
C'est un petit peu ça, effectivement. Et donc les habitants, effectivement, trouvent ça très injuste au final.
Pour tous les sujets du roi avant la Révolution française, le roi, il est vu comme un père de famille bienveillant. C'est-à-dire que même sous l'Ancien Régime où il y a eu des révoltes contre l'impôt, très souvent les révoltés, les rebelles crient « Vive le roi sans gabelle ». Ça veut donc dire que le roi, il est vu comme un bon père de famille, mais très souvent il est vu comme quelqu'un de bienveillant mais mal entouré. Si ça va mal dans le royaume, c'est pas la faute du roi, c'est la faute de son entourage. Mais très souvent, le roi, il est vu comme quelqu'un de positif. C'est vraiment celui qui intercède de toute façon auprès de Dieu pour les Français. Ce qu'il va y avoir, c'est que au moment des états généraux, la situation va échapper au roi. Le tiers-état va se déclarer assemblée constituante. Et donc, à ce moment-là, le roi laisse faire. Et finalement, après, de plus en plus, il va y avoir à côté du roi, ça va être les cris de « Vive le roi et vive la nation ». C'est-à-dire que désormais, il y a une entité qui est en train de se créer. C'est plus le roi qui est au-dessus de tout le monde. Il y a le bien public, la nation constituée de l'ensemble des habitants du royaume, entre guillemets, tous à peu près à part égale.
Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin.
Et donc, petit à petit, la révolution, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. C'est-à-dire qu'il y avait un climat, c'était un peu comme une cocotte minute qui demandait qu'à exploser, mais on ne savait pas comment que ça allait se produire. Et puis, de toute façon, ce n'était pas la première fois que ça se produisait. Mais là, ce qui se passe, c'est que les députés ont été nourris des idées des Lumières. Et donc, cette notion de bien public, cette notion qui existait déjà, mais cette notion de nation, de souveraineté nationale, va faire son chemin. Et puis, finalement, la révolution va se nourrir d'elle-même. C'est-à-dire que d'événement en événement, petit à petit, on va s'éloigner de l'image du roi bienveillant. Et puis, ce qui va finalement porter le coup de grâce, c'est le moment où, en 1791, le roi va vouloir fuir. Parce que de toute façon, il voulait finalement revenir en force, cette fois-ci avec les armées autrichiennes et prussiennes, pour pouvoir réinstaller par la force son pouvoir. Et le fait que le roi fuit et qu'il ait été rattrapé, c'est ce qu'on a appelé le divorce entre le roi et la nation. C'est-à-dire que désormais, le roi, il n'est plus vu ni comme le bon père de famille, ni comme quelqu'un qui veut le bien de son royaume. Il est vu limite comme un traître. Et donc, ça sera en 1792. avec le 10 août la prise des Tuileries, puis ensuite son procès que finalement on mettra fin à sa, j'allais dire à son règne et puis à sa vie en le guillotinant. Mais voilà, c'est une situation qui dégénère, qui dérape, qui n'était pas du tout prévisible avant cette révolution, avant les événements. Donc les états généraux, leur convocation c'est le 5 mai 1789 et puis après c'est au mois de juin, juillet que tout s'emballe et que finalement plus personne n'a vraiment de prise sur les événements.
Et bien souvent, donc dans les cahiers de doléances, soit en introduction, soit en conclusion, les habitants assurent le roi de leur fidélité et de leur soutien dans sa démarche. Même certains le remercient de façon très explicite de convoquer ses états généraux. Donc ici, on a la conclusion du cahier de doléances de la paroisse de Fins. Donc les habitants de Fins supplient Sa Majesté d'avoir égard à leurs très humbles supplications. Ils ne cesseront d'adresser leurs vœux au ciel pour la conservation de ses jours précieux et pour la prospérité de son règne. Et suivent donc les signatures des membres de la paroisse qui savaient signer, c'est-à-dire peu de personnes.
Il y a 6-7 signatures.
C'est ça, absolument.
Les gens, le problème, c'est ça, c'est qu'ils étaient pleins d'espoir. Ils pensaient que avec les cahiers de doléances, le roi entendait enfin tout ce qui n'allait pas pour pouvoir y remédier. Or, la problématique du roi, c'est comment renflouer les caisses du royaume. Autrement dit, je vous demande de me payer un impôt, payez-moi cet impôt. Sauf qu'en même temps, les gens ils disent, on veut bien payer, mais en même temps, on veut ceci, on veut cela, on veut ceci, on veut cela. Ce qui n'est pas, lors des autres états généraux, c'était un petit peu la même chose. Mais c'était pas aussi, il n'y avait pas cette attente comme là, en 1789, il y avait.
On voit bien, hein, c'est les revendications qui portent sur ce qu'on a pu appeler ensuite l'abolition des privilèges. C'est en germe dans les cahiers et les revendications très fortes sur la lourdeur des impôts. Donc peut-être que oui, tout ça est en germe dans ces cahiers et on peut l'étudier sous cet angle. Je crois que ce qui m'attire particulièrement dans les archives, c'est cette notion d'original. C'est vraiment le document unique avec des formes extrêmement variées et le fait que chaque document apporte finalement une petite parcelle de connaissances pour l'histoire générale et que voilà, chaque document va être une petite trace et que le rôle des archivistes voilà, va être de conserver les traces pertinentes, parce qu'évidemment on ne peut pas conserver l'ensemble des documents produits, donc on a un rôle très important de sélection et de préservation pour que ensuite ces documents puissent servir de source aux historiens.
Ces revendications, elles sont intéressantes parce que aujourd'hui, au moment des manifestations qu'il y a eu au moment des Gilets jaunes, 2018-2019, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu en retour le pouvoir à demander à ce que les gens puissent collecter toutes les revendications, toutes les doléances qu'ils avaient, les cahiers de doléances 2.0. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois, ils correspondent aux difficultés d'une époque donnée. Et c'est très intéressant parce que après la question c'est comment est-ce que le pouvoir y répond. En 1789, le roi n'a pas eu le temps matériel pour pouvoir y répondre. Ce sont les révolutionnaires finalement qui se sont emparés de cet héritage pour y répondre en partie. Après là, la question c'est justement les demandes des citoyens en 2018, 2019, 2020 avant le Covid. La question c'est comment est-ce que le pouvoir va répondre à toutes ces demandes, certaines étant plus compliquées à mettre en place que d'autres. Bravo.